Alors, ce Radio Barque avec comme invité Alain Perea, dont on a déjà beaucoup parlé, mais évidemment, il serait intéressant de l'entendre. Alors, quid de cette candidature est-ce que ce qu'a dit Michel Santo tout à l'heure correspond bien à la réalité de votre stratégie, Monsieur Perea?
Moi, j'apprécie toujours les analyses de Michel Santo, mais là, pour le coup, il y a un point sur lequel je suis fondamentalement divergent, c'est que la lecture qu'il fait est une lecture politique au sens parti politique. Et moi, je rentre dans cette dynamique sur Narbonne, pas du tout dans une logique parti politique. Si c'était le cas, je peux déjà vous le dire, nous avons à la REM un calendrier, et ce calendrier n'est pas du tout celui que je suis en train, là, de ne pas respecter. Moi, mon objectif, ma passion, c'est Narbonne. Et ce que je vois aujourd'hui dans les dynamiques municipales qui se mettent en place ne sont pas, à mon sens, à la hauteur de ce que la 100e ville de France, à quelques places près, est en droit d'attendre. Et chaque fois, et je le dis pour les auditeurs, que je dirais Narbonne, bien sûr derrière, ce sont les Narbonnaises et les Narbonnais au sens large, y compris de l'agglomération. Et donc moi, la lecture, la façon dont je rentre dans cette dynamique n'est en aucun cas sur où sera la place de la REM, où sera la place des uns et des autres, des partis et autres. Ce que je souhaite vraiment de toute ma force, avec effectivement, comme l'a aussi rappelé Michel Santo, mon franc-parler, qui des fois dérange, mais au moins ça a le mérite d'être clair sur les sujets, eh bien c'est de dire il faut véritablement avoir une vision pour Narbonne, il faut avoir une dynamique pour ce territoire. Aujourd'hui, je ne le sens pas. Je l'avais dit la dernière fois quand je suis venu déjà à votre micro, où j'avais été mais vraiment catastrophé des expressions des deux candidats déclarés. Et là, quelques mois après, on en est toujours au même niveau à se battre recours contre recours, voilà, ou créatine contre anti-créatine. Enfin, Narbonne n'en est pas là. Et donc, la façon...
Si vous me permettez une parenthèse, vous voulez doper Narbonne à propos de créatine?
Alors non, d'autant plus que j'ai un passé de cycliste, voilà, donc je vais éviter de parler de tout ça. Mais simplement, ce que je voudrais vraiment dire, c'est cette logique, elle est là. Et je ne l'aborde pas non plus avec Perea doit être le leader, doit être celui qui sera tête de liste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de secouer un petit peu tout ça, d'agiter et d'être le rassembleur. Moi, j'aurais pu travailler, et je peux encore travailler avec des gens qui sont d'un côté ou des gens qui sont de l'autre. Je n'ai aucun souci. J'ai de très bonnes relations avec des adjoints qui travaillent aujourd'hui sur la liste de Didier Mouly, enfin, ou en tout cas qui travaillent avec Didier Mouly. Et j'ai de très bonnes relations, et même humainement, moi, j'aime beaucoup Nicolas Sainte-Cluque. Mais c'est lui, à votre micro, qui a dit qu'il voulait pas travailler avec moi. Moi, je n'ai jamais dit ça. Et donc, je pense que aujourd'hui, on pourrait se rassembler, créer une vraie dynamique et être sur une vision pour Narbonne. Cette vision, je l'ai exprimée un petit peu déjà plusieurs reprises, il faut que Narbonne devienne une capitale de la Méditerranée. Il faut que nous soyons un phare. Je serai la semaine prochaine à Belgrade, puisque j'ai été nommé par les parlementaires de la Méditerranée ambassadeur pour le climat pour la Méditerranée. Je vois ce qui se passe sur la Méditerranée. Je vois la place que Narbonne pourrait avoir. Je vois combien des communes qui sont de la taille de Narbonne ont un développement formidable en profitant de cette proximité. Et nous, on passe notre temps à savoir comment on va brancher les bouches d'égout devant le nouveau musée qui est un musée d'envergure internationale. Enfin, c'est pas possible. Il faut que nous ayons un regard qui porte beaucoup plus loin. Et ce regard, je ne prétends pas l'avoir seul. Je dis juste que autour de moi et sur Narbonne et dans le Narbonnais, il y a des gens qui sont capables de dépasser les clivages des partis politiques, qui sont capables de dépasser tout un tas de problématiques de personnes les uns contre les autres et qui pourraient porter pour ce territoire un projet qui serait lié à un développement qui serait bénéfique pour tous en étant respectueux de notre passé et des personnes qui sont sur cette commune, qui y vivent bien et qui ne veulent pas non plus qu'on agite tout un tas de choses. Voilà, et donc c'est comme ça que je rentre dans cette dynamique-là et non pas dans une logique de parti politique.
D'appareil. Alors, est-ce que justement à Paris, on vous laisse la latitude de, justement d'avoir cette approche-là et non pas une approche de parti ou d'appareil politique ?
Mais ça fait plus de deux ans qu'on essaye d'expliquer que à La République En Marche, on a une approche qui est complètement différente. D'autres partis ou d'autres personnes essayent en permanence de dire « Mais vous voyez bien, vous êtes comme les autres, vous voyez bien, vous êtes comme les autres. » Et on a beau dire que notre ADN la façon dont on a été créé, la façon dont on a émergé est complètement différente. Mais bon, on n'arrive pas, ils veulent pas entendre le message, ou ça les rassure tellement bien de voir qu'ils ont un fonctionnement différent. Et donc nous, j'ai rencontré des responsables à Paris et je leur ai fait état de ma vision sur Narbonne et ils m'ont dit, mais si c'est bon pour ton territoire, fonce. Comme l'a fait Emmanuel Macron quand il a pensé que c'était bon pour la France. Alors après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais il a foncé. Et là, ils m'ont dit, mais si c'est bon pour ton territoire, à partir du moment où c'est bon pour ton territoire, si c'est ta vision des choses, et si elle est partagée, fonce. Et donc, voilà, moi, je mets là sur la table, mon énergie, ma vision des choses. J'ai déjà reçu avant, et puis là, depuis hier, bien sûr, n'en parlons pas, de nombreux appels et de nombreux contacts, où il y a une vraie dynamique qui est déjà en train de se créer. Et je ne doute pas qu'il y a des choses qui vont se passer. Après.
Donc, on va revenir très prochainement et
l'évolution. Vraiment, puisqu'on a été depuis tout à l'heure sur des images rugbystiques. Le capitaine d'une équipe de rugby, il réunit les gens autour de lui, il essaye d'envoyer un message positif, mais c'est pas forcément celui qui sera en train de marquer des essais, et ça sera pas forcément l'homme du match. Voilà. Alors, donc moi, je suis plus dans une position de rassembleur que de leader.
Oui, alors une petite parenthèse amusante à propos de rugby. Il y a un rugby parlementaire, vous avez une équipe à l'Assemblée.
Oui, effectivement.
Qui rassemble des gens, d'ailleurs, très épars politiquement.
Oui, qui nous rassemble.
Tel que Monsieur Corbière, je crois, Monsieur Alliot, non?
Oui, tout à fait. Ça va de tous les. C'est vraiment transpartisan. La seule chose, je dirais, enfin, une des choses qui nous réunit, c'est cet amour du rugby et cette fraternité que l'on peut retrouver. Et donc, on a effectivement la semaine dernière joué contre les Anglais. La semaine prochaine, je serai donc à Belgrade. Je n'y serai pas, mais on joue contre les Écossais. Et début mars, nous jouerons contre les Irlandais.
Ah, c'est vraiment les Six Nations ou presque?
C'est effectivement. Non, mais c'est vraiment le tournoi. Alors, il n'y a pas les Italiens, mais c'est vraiment le tournoi. Et nous sommes en train de préparer la Coupe du Monde au Japon, puisque nous avons l'ambition de gagner la Coupe du Monde au Japon, ce qui est loin d'être fait, parce que mon ami, tout le monde le connaît, Jacques Bascou, qui faisait aussi partie de cette équipe-là, m'a toujours dit que Néo-Zélandais était une équipe très très forte, y compris au niveau du Parlement, parce qu'ils n'ont pas la même façon de composer l'équipe.
Bon, alors revenons quand même à l'Assemblée habituellement avec ses tâches habituelles, Monsieur Perea. Il n'y a pas très longtemps, à propos de fonctionnement justement de La République En Marche, un député de La République En Marche a voté contre la loi anticasseur, Monsieur Orphelin. Ça peut rappeler à première vue ce qui se passait précédemment avec Monsieur Hollande, c'est-à-dire des frondeurs qui votaient contre le gouvernement. Quel est votre regard là-dessus?
Alors d'abord, il n'y a pas que Mathieu qui est assis à côté de moi dans l'hémicycle, mais une cinquantaine de députés qui se sont abstenus.
Oui, donc, mais voilà. Lui a voté contre.
Non, il s'est abstenu. Enfin, de mémoire, mais je crois qu'il s'est abstenu. Et ils sont une cinquantaine. C'est cette liberté. Je parlais tout à l'heure de ma liberté à organiser sur le territoire une stratégie pour que ce territoire bouge. Et on a une liberté dans notre mouvement qui est que lorsque l'on veut... montrer que l'on a une divergence par rapport à ce qui va être fait, on le fait. Alors ça gêne beaucoup les gens parce que, un, ils ont essayé de nous faire passer pour des députés stupides et godillots, et donc ça les perturbe parce qu'ils comprennent pas que l'on ait cette liberté. Et deux, ils essayent en permanence de faire exploser notre mouvement en disant, ben vous voyez, il y a des frondeurs. Ce qui n'est pas l'objet d'autres questions, hein. C'est une question qui est beaucoup plus ouverte. Mais des discours sont là. Or, c'est pas du tout le cas. Et donc on a tout à fait une liberté de dire, sur cette question-là, je ne suis pas d'accord, je m'abstiens, ou je vote contre, mais cela ne veut pas dire que je mène un travail de fond, comme l'ont fait les frondeurs, un travail de fond pour renverser le gouvernement ou renverser la majorité. On est là uniquement sur une liberté d'expression, parce que cette majorité, elle est issue de courants qui sont des courants différents, avec des parcours différents, certains politiques, d'autres qui ne le sont pas, et on garde cette liberté parce que, contrairement aussi à ce que j'ai trop entendu ces derniers mois et qui m'a particulièrement touché, c'est que nous sommes représentatifs de la société. Voilà. Et quand on veut faire croire que les députés, tous bords politiques confondus, pas uniquement ceux de la majorité, ne représentent pas la société, c'est qu'on ne connaît pas les députés. Et moi, je l'ai souvent dit à certaines personnes, je leur dis, mais vous nous dites qu'on ne représente pas la société, mais combien de fois vous avez discuté avec des députés? Combien de fois vous avez parlé? Est-ce que vous savez vraiment quel est notre travail au quotidien? Avec qui on vit? Qui on rencontre? Et donc, souvent, c'est un discours qui est de dire qu'on ne connaît pas les gens, mais c'est souvent les gens qui ne nous connaissent pas.
Oui. Alors, Alain Perea, pour ce monsieur donc orphelin qui a fait parler de lui, est-ce que politiquement, c'est quelque chose qui est porteur ou qui met en péril peut-être son avenir ou sa carrière? Alors, qu'en général, on n'aime pas trop non plus les gens qui suivent pas.
Alors moi, j'ai énormément d'estime pour Mathieu Orphelin. C'est un agitateur. C'est quelqu'un qui est très, très engagé. Il a un parcours très écologiste. Il est très, très engagé sur la cause écologiste. Il travaille énormément. Ensuite, il fait le choix de partir. Il me l'a annoncé parmi les premiers, puis encore une fois, il est assis à côté de moi dans l'hémicycle. Je lui ai dit, c'est une erreur que tu fais. C'est une erreur que tu fais parce que dès que tu vas sortir du groupe, ta voix n'aura plus aucun poids. Et on l'a vécu avec Delphine Bateau, qui était au Parti Socialiste, ancienne ministre. Et c'était quelqu'un qui, dans les premiers mois, lorsqu'elle était au Parti Socialiste, sa voix portait parce que elle portait avec elle la force du groupe socialiste, même s'ils sont très peu nombreux, et elle portait avec elle aussi, de temps en temps, une voix dissonante par rapport à ce que portait le Parti Socialiste. Elle a fait le choix d'en sortir, ça lui appartient, et je n'ai... Qui entend parler de Delphine Bateau depuis qu'elle est sortie?
Donc c'est un destin semblable que vous prévoyez?
Oui, alors après c'est pas binaire, c'est-à-dire que les choses vont évoluer, peut-être qu'ils vont reconstituer un autre groupe, voilà, moi je sais pas aujourd'hui, je regrette juste... qu'il soit parti. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que j'étais dans un parti où chaque fois qu'il y avait une voix dissonante, on excluait la personne. Je l'ai subi.
Voilà. Le Parti Socialiste.
On voit où ça les a menés. Et donc moi, chaque fois qu'un d'entre nous n'est pas bien dans ce mouvement, je fais tout pour le garder parce que ce qui fait la richesse d'un mouvement politique, ce n'est pas une unité de pensée, mais au contraire, c'est la capacité à rassembler des gens qui ont des avis différents.
Oui, une remarque, Michel.
Oui, Alain Perea, vous avez beaucoup parlé de militants, en tout cas d'élus écologistes. Oui. Il se trouve que depuis que j'ai publié ce billet vous concernant, et notamment la déclaration de candidature, sinon de la vôtre en tout cas, du mouvement de La République En Marche, qui soutiendrait un mouvement, je n'ai jamais parlé de parti dans ma chronique, mais bon, passons. Le nombre de réactions que j'ai eues sur mon billet, de gens appartenant à la mouvance écologiste, et qui est très négative. À l'évidence, je vous le dis très franchement, nombre d'entre eux ne vous portent pas beaucoup, faites en estime, quoi.
Alors, Alain Perea.
Oui, mais je sais exactement d'où ça vient.
Ça ne vous met pas vert de rage, monsieur.
Ah non, ça ne me met pas vert de rage. Ça me touche, bien sûr. Ça me touche, mais... on est purement et simplement sur la question d'Orano. On est là-dessus. C'est-à-dire que pendant la campagne des législatives, tous les candidats, sans exception, tous, ont signé en disant « Si on est élu, on fera fermer Orano ». C'était mentir aux gens. C'était pas possible de le faire. Et tous, ils ont signé. Le seul qui refusait de signer parce qu'il a voulu avoir un discours de vérité, c'est Alain Perea. Et donc... là, maintenant, on se retrouve avec des personnes, mais qui sont venues aussi à ce micro, et moi, j'entends leurs éléments, qui agitent des peurs, encore aujourd'hui, dans la presse, qui agitent des peurs sur tout un tas de choses, et le maire concerné s'en défend très bien. Et donc, il faut rationaliser tout ça. Moi, je ne supporte plus tous ces gens qui agitent des peurs. C'est tellement facile, mais on sait où ça a mené les pays qui ont agité des peurs comme ça. On sait où les mouvements politiques qui agitent des peurs, qu'ils soient d'extrême, qu'ils soient écologistes, on ne peut pas faire ça. Voilà. Et donc, moi, j'entends les gens qu'ils aient peur, et le rôle d'un élu, c'est d'essayer d'amener des éléments factuels. Le problème, c'est qu'on a à côté de nous, en face de nous, je sais pas comment il faut employer, des gens qui sont en permanence en train de ressasser des choses qui, depuis le début, dans cette histoire-là, se sont toujours avérées fausses. Voilà. Et moi, je tiens à dire un truc, parce que vraiment, c'est un dossier où je m'en suis occupé. Je n'ai pas rencontré un seul spécialiste de ces questions-là, qu'il soit pour le gouvernement, contre le gouvernement, indépendant, fonctionnaire, qui m'ait dit il y a un problème à Malvézie. La seule personne que je rencontre, c'est toujours la même, j'ai pas envie de la citer parce que j'ai pas envie de lui faire de la publicité, c'est la seule personne. Alors comment voulez-vous que moi, je monte au créneau pour dire il faut fermer ce site ou il faut être véritablement contre ce site, alors que je n'ai aucun argument factuel? Après, juste deux choses pour terminer cette question-là. Un, que l'on soit pour ou contre le nucléaire, ça, c'est un vrai débat. Et actuellement, je mène avec Barbara Pompili à l'Assemblée nationale un véritable combat sur la question de la PPE, donc de la programmation pluriannuelle de l'énergie, pour justement placer l'énergie nucléaire à sa juste valeur. Et donc là, moi, je veux bien que tous les gens qui sont écologistes, ils soient contre moi. Mais quel est le député qui travaille autant que ça au niveau national avec Barbara Pompili? Personne. Il n'y a que moi. Et la deuxième question, c'est, ce n'est pas parce que on a des éléments qui sont plutôt des éléments rassurants sur ce site qu'il ne faut pas être dans l'observation, dans le suivi, dans le contrôle. Et on a des gens qui sont capables de le faire. Marie Sarditi le fait, d'autres le font. Et donc, moi, je fais tout pour que l'observation et la transparence aient lieu sur ce site. Mais il faut arrêter d'agiter des peurs qui vont poser sur notre territoire, alors qu'on a de l'ambition sur ce territoire, un regard qui sera un regard trop négatif.
À l'Impéria, on va changer de couleur. On passe du vert au jaune. Alors, on le sait, depuis quelques semaines, les Gilets jaunes ont mené cette opération que personne n'avait vu venir apparemment, qui s'est déroulée de façon assez... qui n'est pas terminée apparemment, qui vous a valu, alors vous et d'autres, d'être parfois malmenés, du fait que vous êtes député. Quelle est votre analyse, là, aujourd'hui, je dirais pas à la fin de ce phénomène, puisqu'il est probablement pas fini, mais quelle est votre analyse dans son déroulement et dans la façon dont les choses ont tourné?
Alors, lors de ma dernière venue, c'était justement le 17 novembre, je crois, c'était le week-end du lancement.
C'était donc, le tout début.
Et donc, j'en avais déjà dit un petit mot. Moi, d'abord, moi, je respecte les gens qui ne sont pas d'accord. Je respecte les gens qui manifestent. Je n'ai aucune considération pour les gens qui cassent, qui menacent et qui tirent notre pays vers le bas. Donc, partant de là, et je l'ai dit à plusieurs reprises, y compris quand j'ai reçu des représentants des Gilets jaunes, moi, je leur demande aux uns et aux autres d'avoir une attitude qui est une attitude responsable. Voilà. Quand on est Gilets jaunes, on ne peut pas cautionner à demi-mot ou en expliquant que c'est la faute des uns ou des autres qu'on a des casseurs ou des gens qui font un certain nombre de malversations. Voilà. Je suis encore passé devant la sous-préfecture tout à l'heure. Enfin, c'est pas possible, quoi. Voilà. Moi, j'invite les Narbonnaises et les Narbonnais qui n'ont pas encore jeté un coup d'œil à la sous-préfecture. Vous avez des images qui sont des images de guerre. Voilà. Et donc ça, c'est pas possible, premièrement. Deuxièmement, sur ce mouvement, on a véritablement une difficulté, c'est la question de est-ce qu'on représente le peuple ou on ne représente pas le peuple. Et donc, derrière, on a en permanence une question qui est « Mais nous, on est le peuple, et vous, les élus démocratiquement, vous n'êtes pas les représentants du peuple. » Et moi, j'invite l'ensemble des acteurs, qu'ils soient élus, moi le premier, qu'ils soient sur les médias, ou qu'ils soient gilets jaunes ou simples citoyens, à se dire que les choses ne sont pas si binaires que ça et si simples que ça. Nous représentons tous une partie de la population, mais nous représentons tous aussi une idée que l'on se fait de ce que la population veut. Et ce n'est pas en s'affrontant, ce n'est pas en menaçant, ce n'est pas en disant « Attention, nous, on représente le peuple, et si vous ne nous écoutez pas, on va venir tout casser chez vous », que les choses vont avancer dans notre pays. C'est dans la confrontation d'idées, et non pas dans la confrontation physique. Donc, on se voit, on discute, on organise ce grand débat. Moi, je suis allé cette semaine encore dans une réunion où il y avait organisé par des Gilets jaunes pour discuter avec eux. Et donc, en se disant chaque fois, je représente une certaine partie de la population et donc je fais remonter ces éléments-là. Ensuite, et je le dis tranquillement, il va bientôt y avoir des élections législatives, européennes, municipales, on en a déjà parlé, qui présentent des listes. Et s'ils sont élus démocratiquement, ils pourront dire, dans le cadre constitutionnel qui est notre pays, ils pourront dire « nous sommes les représentants de la population ». Pour l'instant, ils sont représentants d'une frange de la population, une frange qui souffre, une frange qui a véritablement des questions, qui pose de vraies questions et auxquelles il faut répondre. Mais moi, je ne peux plus tolérer, je ne peux plus entendre « si vous ne nous écoutez pas, on va tout casser », parce que c'est pas comme ça que ça marche et c'est pas comme ça que notre pays va avancer.
Oui. Est-ce que vous ressentez politiquement des manipulations derrière? Parce que c'est ce qu'on met en avant. Bon, les manipulations d'extrême gauche ou d'extrême droite, mais avec une stratégie, véritablement.
Mais c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire.
Expliquez-vous et ça sera là-dessus qu'on conclura.
C'est-à-dire que ce n'est pas Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon qui sont en train d'essayer de récupérer les gilets jaunes. c'est ces deux parties-là, depuis des années, font de ces demandes qui sont dans la population, font leur électorat, ils font leur base électorale. Donc ça fait bien longtemps qu'ils ont mis en place des ramifications là-dessus. Et donc on est là aujourd'hui sur des gens... J'ai entendu ce matin qu'un des responsables, Drouet, il avait voté, il a 30, un peu plus de 30 ans, il avait voté qu'une seule fois dans sa vie. Voilà. Et donc ce sont des gens qui, on les connaissait sur les réseaux sociaux, on les entendait au coin de la rue, ce sont des gens qui sont dans des revendications, qui sont des revendications anciennes. France Insoumise et le Rassemblement National, depuis longtemps, ont capté une partie de cet électorat-là, de ces gens-là. Et puis là, aujourd'hui, ils ont eu l'idée géniale de se réunir sous un même code qui est le Gilet jaune. Et donc, ils font effondrer complètement le Rassemblement National et France Insoumise qui ont perdu leurs appuis. Voilà, mais tout ça, bon, ben ça se restructure. Et moi, je ne suis pas, comme trop de personnes, dans la grande théorie du complot. Moi, je ne crois pas véritablement à tout ce que je peux entendre comme salade ici et là. Je crois juste qu'il y a une frange de notre population qui souffre, qui a l'impression de ne pas être entendue. Et si vraiment le message que je veux leur faire passer, c'est si vous voulez être entendu, il faut arrêter ces violences, parce qu'on le voit, y compris des gens qui étaient au début dans la même dynamique et qui étaient prêts à soutenir, ne sont plus à le faire, ne veulent plus soutenir et ne veulent plus cautionner ces violences. Donc si on doit gagner et une unité dans notre pays et améliorer la situation des Françaises et des Français dans la globalité, c'est pas en se battant qu'on le fera, mais c'est en étant unis.
Eh bien, merci Alain Perea, c'est là-dessus qu'on va conclure. Le prochain invité, alors c'est un hasard, c'était prévu depuis longtemps, c'est Monsieur Saint-Cluc, on en a parlé tout à l'heure, et bien entendu, nous entendrons son avis sur des élections...
municipales, puisque il n'a pas d'autre enjeu.
Tout à fait municipal, en tout cas, selon ce que l'on sait aujourd'hui. Merci en tout cas d'être resté à notre écoute de ce 18e Radio Barque et à la semaine prochaine.
Merci.